9h26, le verdict qui a été rendu cette semaine dans le procès de Derek Chauvin, ce policier, ex-policier pour être plus précis, de culpabilité pour la mort de George Floyd a amené des réactions partout, aux États-Unis, mais partout dans le monde également. Et évidemment, chaque situation est particulière dans chacun des pays, mais c'est pour beaucoup un point tournant, en tout cas plusieurs le souhaitent, dans les rapports entre les Noirs, les différentes minorités et les corps policiers. Dans la foulée de ce verdict, Danny Laferrière a publié un texte, un petit traité sur le racisme. On le retrouve ce matin à Paris. Danny Laferrière, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, j'ai lu votre texte. Si vous aviez à résumer votre état d'esprit quand ce verdict est tombé, pas seulement, bien sûr, sur le verdict comme tel, mais dans une perspective plus large de ces relations, donc marquées par du racisme aussi ancrées aux États-Unis.
Oh, je ne sais pas. Vous savez, c'est un moment exceptionnel puisque la société américaine, presque dans son entièreté, a salué et ce verdict. On dirait que la nation américaine a dit « ouf ». Et on avait peur d'un verdict un peu contraire qui aurait poussé à des manifestations outrancières et terribles, toujours terribles d'ailleurs pour les ghettos, beaucoup plus que pour les quartiers riches, et de là où se passe un peu le pouvoir. Et ce que je pourrais dire, c'est qu'il m'est impossible, moi, dans ma manière de voir les choses, qui est proche de celle d'Albert Camus, qui parle toujours de dévoiler, déchirer le voile qui nous empêche de voir ce qui se passe derrière la scène. Je ne peux pas m'empêcher de voir les ombres circuler derrière. Il y a même pas 4 mois, et Donald Trump était au pouvoir, 50% de la population américaine était déchaînée, si l'on peut dire, pour qu'il n'y ait pas de changement de pouvoir. Et le président américain avait lancé une attaque à main armée, littéralement, contre le Sénat américain, le centre du pouvoir légitime américain, ce pouvoir qu'il a mis au pouvoir, si l'on peut dire. Je ne peux pas croire que ces gens-là soient restés en paix, calmement, en toute quiétude et dans cette arrière-scène. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête? Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on avance vers une paix, vers quelque chose comme une tentative d'équilibre dans la société américaine? Ou bien est-ce qu'ils se sont dit, je vous laisse celui-là en pâture, mais on se verra bientôt? Et on se verra bientôt, c'est pas du tout une action politique, une action nationale, une action, j'allais dire même électorale, légale, mais c'est plutôt dans la rue, là où l'on tue les gens.
Je vous cite, vous avez écrit, on discute abondamment du racisme dans les salons, dans les cafés, dans les cocktails avec un verre de vin blanc, alors qu'on fait semblant de ne pas voir le raciste à 3 pas de nous. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément?
Je dis que le racisme, c'est une idéologie, c'est bien, bien amusant d'en parler, et on peut toujours même défendre le pour ou le contre, mais ce qui est irréfutable, ce qu'on ne peut pas s'empêcher de voir, ce qui bouge, ce qui est concret, quotidien, ordinaire dans la vie réelle, c'est le raciste. Et c'est très rare et qu'on l'affronte. Et c'est très rare qu'on discute avec lui. Et souvent, les gens qui contestent le racisme, qui en parlent, et qui le jettent par terre, qui le piétinent, c'est-à-dire le mot, ne voient jamais l'objet, la chose, la bête, c'est-à-dire le racisme lui-même. J'ai remarqué que les intellectuels qui parlent du racisme, je dirais même la même chose pour les féministes, et qui parlent un peu du machisme, mais le vrai macho, est-ce que on le voit? Est-ce qu'ils se promènent dans les salons vraiment comme ça? Est-ce qu'ils sont pas dans des zones où ils peuvent plus librement donner cours à leur violence? Et si on veut le voir pour les femmes, on doit aller dans les maisons de refuge où se tairent ces femmes qui sont, disons, horrifiées par ce qui se passe sous leur toit. Si on veut voir le vrai raciste, on l'a vu quand ils étaient venus pour saccager le Sénat américain. On a l'impression que ces types habillés comme dans une autre époque. Il y en avait qui portaient des cornes sur la tête. Ils étaient vraiment en état de guerre, comme si on était dans un siècle à part, dans une société à part. On ne le rencontre pas facilement dans un cocktail. Et c'est ça l'affaire. Je me souviens d'un très grand essayiste antillais et martiniquais, Édouard Glissant. Il disait que le drame de l'esclave, c'est qu'il n'a pas vu son vrai maître. Puisque le vrai maître, celui qui possède les terres à Saint-Domingue ou Martinique, Guadeloupe, enfin dans le sud, il est resté chez lui à Nantes, à La Rochelle, à Bordeaux, dans les grandes villes et d'où ils ont leur grande maison. C'est-à-dire, l'esclave, la victime, voit rarement le vrai visage du maître. Souvent, celui qui vous frappe dans la rue n'est pas le maître. Il est commandité. Et on n'a pas l'habitude de rencontrer ces gens-là qui sont chez eux dans des belles maisons, qui se promènent en hélicoptère et ne touchent pas terre. Et donc, c'est cela, le vrai face-à-face qu'on appelle, que la victime rencontre celui qui lui a fait, qui a commandité le mal, celui qui a fait le mal.
Quand vous voyez au Québec ce débat entre les gens qui parlent de racisme systémique et le premier ministre du Québec, entre autres, qui refuse de reconnaître le phénomène, dit qu'il y a des gens racistes, mais il n'y a pas un système raciste. Quelle est votre réaction face à ce débat?
Ce débat, c'est un débat qui devait venir un jour, parce que ça fait longtemps qu'il est à notre porte. Mais je me souviens, quand c'est arrivé, je me suis dit, je vais laisser ce débat se faire sans moi. Je crois que il y a des fois des moments où une nouvelle génération arrive et arrive avec ses réflexions, ses combats, ses frustrations et il doit poser le problème à sa manière. Je regarde faire pour voir comment l'État, parce que mine de rien, quand on a 68 ans comme moi, je ne connais pas votre âge, monsieur Arcan, on a vu des gens passer.
Oui, oui.
On a vu des gens passer.
J'ai 60 ans, monsieur Laferrière.
Bon, voilà. Même vous, on a vu des gens passer. On a vu les choses retourner à leur point de départ pendant que les gens qui sont là à ce moment-là croient que c'est une situation inédite. Et on a vu ça et on a revu ça. Et des fois, on a envie de regarder les gens, de ne pas toujours arriver en pompier et pour éteindre le feu et, ou bien pour donner cette perspective historique, mais de regarder les gens tâtonner pour essayer de trouver leur solution dans ce débat. On a envie d'entendre comment ils posent le problème eux-mêmes, qui est peut-être différent de la manière qu'on a posé ce problème. Mais il reste un fait, et pour moi, que cela ne se fera pas uniquement dans la discussion idéologique, et qu'il faut dépasser le cadre légal, le cadre politique, pour rentrer dans la vie quotidienne. Parce que beaucoup de gens, des deux côtés d'ailleurs, beaucoup de gens ne pensent pas qu'ils sont racistes. D'ailleurs, ils ne posent pas de gestes tellement racistes. Mais il y a une pensée profonde qui leur dit profondément que là où je suis, comme je suis, connaissant les codes que je connais, ma vie est supérieure, elle est bien meilleure, elle mérite bien, elle pèse plus lourdement dans la balance. Et moi, j'ai ressenti cela aussi en Haïti. Des fois, on marche en Haïti, je parle de noir à noir. On voit quelqu'un qui a l'air tellement misérable, qui a le corps à l'air, les fesses à l'air, un pantalon, et on a des fois un sentiment propre, faux, mais propre, qui nous dit quand même, ma vie coûte plus cher, ma vie est plus importante, avant de croire que ce type, c'est exactement du même poids. Et c'est là le fondement même de la démocratie. C'est très difficile quand on voit un petit garçon monter sur une montagne d'immondices à la télévision nationale et que ça se passe dans un reportage sur Haïti, de croire que c'est le même que notre fils. Que ce petit garçon de 6 ans qui est en train de chercher à manger sur une montagne d'immondices, c'est le même que notre fils. C'est très difficile. Ça demande vraiment un déplacement total. Et c'est là que réside le racisme. Et c'est là que réside. C'est parce que l'antiracisme, cette démocratie qui dit nous sommes tous égaux, nous sommes tous pareils, et qui est contestée de plus en plus, eh bien, elle est née là. Le racisme existe dans le fait que quelque part, je sais que je vaux mieux. Je vaux mieux parce que j'ai accumulé de l'argent, j'ai accumulé du savoir. savoir intellectuel. J'ai accumulé de bonnes actions. J'ai une morale à tout repos, sans reproche.
Mais je
ne peux pas être le même que l'autre.
Mais est-ce que c'est... J'ai l'impression, ou je crois plutôt, que je suis meilleur que l'autre, ou si plutôt ce racisme-là est alimenté par la méconnaissance de l'autre, la peur de l'autre. Je connais pas l'autre, donc automatiquement, j'en ai pas. Je me sens supérieur ou je me méfie de celui que je connais pas?
Oui, totalement. Totalement. Parce que j'ai écrit un livre où je raconte une histoire. C'est une fille qui est à Port-au-Prince, qui est à l'école, à une école UP de Port-au-Prince, le collège Lalu. Lalu et les sœurs Sainte-Rose de Lima, comme il y a toujours un peu comme Marie et, ou bien encore Brébeuf. Et elle descend à l'école en voiture avec son père qui la dépose, qui est ambassadeur, et elle voit une mendiante assise devant l'école et l'enfant de la mendiante qui est couché, qui dort sur la mendiante. On voit ça souvent. Et elle se dit, bon Dieu, mais j'ai jamais connu ça. Je n'ai jamais été dans un moment d'extrême liberté comme ça avec ma mère. Je n'ai jamais couché sur ma mère. Je n'ai jamais été en complicité au point d'aller mendier au nom de ma mère pour qu'on puisse avoir de la nourriture pour aujourd'hui. Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça avec ma mère. On n'a jamais, ma mère, une femme d'ambassadeur, tout ce qu'elle fait, c'est organiser des cocktails, et c'est appeler ses amis au téléphone, c'est discuter du cocktail de la veille, et elles font le tour des ambassades. Je n'ai jamais, elle dit, je sais qu'elle est misérable, je sais que sa situation, je sais, mais moi, je n'ai jamais connu cela. C'est-à-dire, elle a fait ce pas. Et je crois que quand on s'approche de l'autre, et je vais vous raconter une autre anecdote très simple. Un soir, je suis rentré dans un bar à Montréal, et c'est un bar sur la rue Saint-Denis. Il y a un type qui était assis au bar, ça c'est vrai, c'était le bar, la cour, et qui était à Saint-Denis. Et le type, il m'a dit carrément, « pas de nègre ici ». Il était assis. J'ai dit « non, pas ce soir ». Il m'a dit « comment ça ?» J'ai dit « parce que ». L'un de mes meilleurs amis, quand j'étais à l'école, j'ai rencontré son frère, il vient de mourir. Et là, c'est pas possible, je ne peux pas prendre rien de plus ce soir. Ce soir, je ne suis pas dans ça. Et puis, il est resté silencieux, il a bu un peu, il s'est retourné, il m'a dit, tu sais, la même chose m'est arrivée il y a à peine 2 mois. Mon meilleur ami est mort. Et puis, on a causé toute la soirée. On a causé toute la soirée parce qu'on était réunis par quelque chose de plus puissant qui nous divisait. On était réunis par la mort d'un ami. On était réunis par la mort. C'est pour ça, je suis d'accord avec vous quand vous dites, dès que vous approchez à une certaine proximité, c'est un peu comme pour Internet, vous risquez de vous échanger vos codes secrets. Ça peut glisser d'un appareil à un autre. Vous risquez de vous interchanger parce que, d'ailleurs, c'est peut-être la peur des fois de savoir que l'autre est pareil à nous, qui fait qu'on ne veut pas s'approcher de lui, on ne veut pas de cette vérité profonde qui nous fera perdre de notre identité, c'est-à-dire du caractère unique de ce que nous sommes, de tout ce qu'on nous a appris. Parce qu'on nous a, disons, éculqué toutes sortes de savoirs dont un certain nombre est tout à fait faux. Et donc on a peur de ce changement parce que ça demande tellement de chambardements dans notre vie, on est occupé ailleurs, on n'est pas toujours réceptif à des changements parce que on vient de perdre quelqu'un, parce que on doit déménager, parce que, vous savez, l'être humain est un animal toujours en mouvement, il est toujours occupé, il a besoin d'un moment pour réfléchir.
Dany Laferrière,
et bien c'est ce moment-là.
J'ai une question, et vous n'êtes pas sans savoir que vous avez, disons, provoqué une certaine vague dans une entrevue que vous avez accordée en France où vous parliez de vos habitudes d'aller dans une librairie, d'aller dans un cimetière. Parliez du Québec où au cimetière on retrouve un gagnon avec une gagnon qui a eu des gagnons. Beaucoup de gens ont eu comme impression, je vous le dis, là j'ai des courriels d'auditeurs, est-ce que Dany Laferrière pense que les Québécois sont des co-sanguins?
Moi? Non, mais c'est souvent qu'on a fait des enquêtes, on a publié des choses là-dessus. Mais ce n'est pas si grave que cela. Les Haïtiens, c'est encore plus. On n'a pas beaucoup de noms, vous savez. D'ailleurs,
mais qu'est-ce que vous vouliez dire en parlant
famille,
comme ça?
Ce que je voulais dire, d'abord, je l'ai écrit dans plusieurs livres. Et cela, c'était d'abord tout simplement que c'est une société qui est tricotée serrée. Je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle « Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo ». Je disais à cet ami Mongo, j'ai dit « Fais attention Alors, c'était des conseils que je donne à un jeune Camerounais. Fais attention, quand vous travaillez quelque part, vous voyez que la personne porte un nom et qui est différent de celui de la directrice. C'est peut-être sa mère. Et peut-être l'autre qui porte un autre nom, c'est peut-être son frère. Ça veut dire qu'il y a des noms, parce que le fait qu'on a plusieurs noms, des noms à rallonge qu'on a eu dans la dernière foulée, dans la dernière génération, où les gens portaient le nom de la mère et le nom du père. Je lui dis, attention à ne pas dire du mal de l'un à l'autre, parce que tu peux te retrouver dans une histoire de famille sans savoir ce que tous les Québécois avaient dit, c'est vrai. C'est vrai parce que le livre a eu un grand succès, on en a discuté, et le livre était une lettre d'amour au Québec, d'ailleurs c'est ainsi que ça s'appelait, tout ce qu'on ne te dira pas mon go, une longue lettre de près de 400 pages d'amour au Québec. Et j'ai écrit ça aussi dans un autre livre, je crois, j'ai peut-être oublié, au moins dans 3 livres, j'ai écrit ça. Et puis là, bon, on en fait un scandale, et comme si j'avais dit que le Québec ne peut pas du tout. Mais on va quand même pas nier qu'il y a beaucoup de gagnants au Québec et beaucoup de tremblés. Comme il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de Joseph en Haïti, il y a des sociétés comme ça. On va pas nier quand même que quand on flâne au Québec, on peut rentrer dans des cimetières. Je disais que le cimetière dans n'importe quelle ville au monde, c'est ça que j'avais dit. Si vous voulez connaître une société, allez au cimetière. Vous allez voir les noms, vous allez voir les mariages, et c'est dit de manière, disons, sobre. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a rien. Vous allez voir qui se marie à qui, vous allez voir les noms de la bourgeoisie, qui sont en avant dans le cimetière, parce qu'ils ont pris les bonnes places. Vous allez voir les noms de la classe moyenne, qui sont au milieu. Vous allez voir les noms des pauvres, qui sont derrière, et peut-être même les noms des étrangers, qui sont un peu plus loin.
Et je dirais les riches qui ont pu se payer aussi un mausolée alors que le pauvre a une petite croix.
Ils sont en avant.
Exact.
Et okay. J'ai dit, si vous allez à la librairie après, parce qu'ils ont ajouté la librairie, j'ai dit, si vous allez à la librairie après, le lien entre la librairie et le cimetière, c'est que c'est des endroits où il y a beaucoup de morts. Vous savez, dans une librairie, il y a beaucoup d'écrivains morts, beaucoup plus que d'écrivains vivants. C'est-à-dire que l'ensemble de la littérature mondiale, même dans une petite librairie, est tellement puissante que c'est toujours supérieur les morts aux vivants.
En terminant, parce que là, je dois vous arrêter, le temps file, mais j'ai une dernière question. C'est cette année, vos 35 ans d'écriture, et vous rééditez votre premier roman. D'ailleurs, vous dites que c'est le seul que vous n'avez pas voulu retoucher. Comment je prononce, et comment je dis plutôt le titre de votre livre sans me plonger dans une controverse?
Mais Monsieur Arcan, vous êtes comme moi, vous n'avez pas peur du bruit. Dites le titre et puis tombez dans une controverse. Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer? Encore une fois, avec un nègre sans se fatiguer et plonger dans une controverse. Nous sommes faits pour nous parler rudement, pour nous parler avec douceur, et nous sommes dans une société et tout simplement, on ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer. C'est la seule chose que je combats. Je combats la censure de la parole. Si on empêche les gens de dire ce qu'ils ont dans le fond de leur cœur, on ne saura jamais dans quelle société on vit. Les gens peuvent dire les choses. La seule chose inacceptable, c'est quand on fait une guerre contre quelqu'un parce qu'il a dit ce qu'il pense.
Dany Laferrière, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Merci aussi.
Au revoir. Dany Laferrière. On a fait le tour de plusieurs sujets. Peux-tu faire la pause le plus vite possible? On apprécierait, là. Gardez-en pour demain. Et au retour, Émilie Perrault est avec nous.